Pauline Pucciano, Paradict. 27 décembre 2071. Affaire du bourreau Blême. Le meurtrier pourrait être lui-même un délicat. Prolifération de cafards dans plusieurs mégapoles de la WA. Le nouveau gouvernement à la loupe. Il était 4 heures du matin. Et Alvar, seul dans son lit, ne trouvait pas le sommeil. La voix muette des poètes, et en l'occurrence celle d'Apollinaire, le tenait éveillé en lui parlant de Sonia. Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Alvar décida de fuir son insomnie et de se connecter au paradict. La musique d'entrée et puis un flot de lumière et de beauté. Il retrouva avec plaisir son cottage virtuel, si charmant, et contempla gravement une aube artificielle se levant sur le monde numérique. Les aubes qu'il avait vues en vrai sur la City n'étaient qu'un éclaircissement progressif de l'ombre jusqu'à une clarté molle et grise. Cela n'avait rien de beau. C'était l'accomplissement sans joie, mécanique, d'une nécessité naturelle. Dans le paradict, il n'y avait aucune nécessité, et tout ce qui s'accomplissait était le fruit d'une volonté humaine. L'aube avait été créée, comme tout le reste, et son créateur l'avait faite transparente et nacrée, vibrante et lumineuse. Son jardin était paisible. Les feuillages et les fleurs s'agitaient doucement, traversés d'une invisible brise. Les pétales, les ailes des papillons, les plumes irisées d'oiseaux-mouches, les feuilles vertes aux nervures argentées accrochaient la lumière. Des grains de poussière ou de pollen dansaient dans les rayons qui tombaient à travers le feuillage des hauts arbres. Alvar ferma les yeux et entendit le chant aléatoire des oiseaux, le bruit apaisant de la cascade, et c'était tout un printemps qui s'épanouissait à ses oreilles. Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes. La pensée de Sonia et la voix d'Apollinaire l'avaient suivi d'un monde à l'autre, mais elle l'accompagnait maintenant avec une grande douceur. L'absence de Sonia, qui avait été douloureuse tout à l'heure, devenait un espace à l'intérieur de lui-même, d'où pouvaient jaillir des merveilles. Alvar ouvrit les yeux lorsqu'il sentit quelque chose toucher sa jambe, pour se trouver aux prises avec un petit animal fantaisiste et bizarrement familier, qui tenait à la fois du chien et du chat et qui se frottait à ses jambes. Il s'étonna et pensa d'abord que c'était là une nouvelle création d'Elina, puis il caressa la bestiole. Il y avait un petit harnais accroché à son cou et un rouleau de parchemin glissé dans un étui. Il le saisit, le déroula et lut. « Bonjour, grand frère, je t'ai créé cette petite créature à l'image de ta peluche préférée dont j'ai oublié le nom. Merci de m'avoir initié au paradict. K1. PS. Et si on créait un ange pour papa ?» Alvar ne put s'empêcher d'éclater de rire. Abel était, comme toujours, imprévisible et flamboyant. Il vous touchait au cœur au moment où vous y attendiez le moins. Depuis qu'il était entré au paradict, il n'y avait pas de jour où Caïn ne lui adressât l'un de ses petits présents inventifs. Alvar le soupçonnait de trouver ainsi une destination à ses 1001 essais d'architecture. Mais peu lui importait. Les programmes d'Abel étaient toujours frappés de son sceau et le faisaient toujours sourire. Alvar et lui se voyaient rarement dans la réalité, mais leur relation s'était beaucoup intensifiée dans le paradict. Abel n'avait pas changé. Mais Caïn révélait d'autres facettes de sa personnalité, notamment des facettes enfantines que l'âge adulte avait occultées. Caïn n'était pas encombré par l'apparence physique ou la brillante position sociale d'Abel. Son intelligence éclatait librement, tout entière gratuite et créative, et c'était là la forme d'intelligence qu'Alvar préférait. Si le grand frère souffrait souvent de la perfection extérieure de son cadet, de la préférence systématique qu'il s'attirait, il ne pouvait pas prendre ombrage de l'ange gracieux et tapageur qu'il incarnait ici. Il ne pouvait que l'aimer, aimer ce qu'il était, sans phare, sans le prisme déformant de la compétition. Caïn, de son côté, était plus généreux qu'Abel. L'enchantement du paradict avait dissipé son égoïsme foncier, en réveillant chez lui des qualités dormantes. Abel était habitué à plaire sans effort, et dans ce nouvel univers, c'était d'autres qualités qui étaient mises en jeu. Caïn ne laissa pas seulement libre cours à sa créativité et à sa fantaisie, mais il fit aussi beaucoup plus d'efforts pour communiquer et pour partager. En somme, le paradict l'avait rendu meilleur, et de manière certaine, avait grandement amélioré leur relation fraternelle. Alvar n'était cependant pas tout à fait serein dans ce jardin exquis. Il était plein de Sonia et se sentait infidèle à Elina, qui l'attendait peut-être ici. Pour la première fois, il eut le désir d'un espace personnel, privé, où elle ne serait pas. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait l'amour, et il faudrait sans doute en arriver à une rupture plus claire. Alvar, maintenant, s'étonnait qu'Elina pût mener de front sa vie réelle et sa vie virtuelle. Il s'en sentait lui-même parfaitement incapable. Il fit tinter la cloche de la maison et appela celle qu'il avait longtemps considérée comme sa compagne. Il était étrange que cette relation, à laquelle il avait suspendu tant de choses, s'évanouisse aujourd'hui si vite, comme si elle n'avait été qu'un fantôme. Les gens qui se quittaient dans la réalité, après une longue vie commune, avaient-ils la même impression que tout ce qui avait été important pour eux pendant des mois, des années, était dépossédé de toute consistance et presque de toute réalité? Était-ce pour cela qu'on quittait si facilement un amour mort? Ou bien y avait-il là quelque chose de particulier aux amours virtuels? Quand il comparait son amour pour Sonia, saturé de réalité, avec ce qu'il avait vécu avec Elina, il ne pouvait s'empêcher, presque à regret, d'admettre que cette conjugalité virtuelle n'avait été qu'un long et charmant fantasme partagé. Un jeu sérieux, un jeu sophistiqué et prenant, mais à la fin de ce jeu, il y avait la même sensation qu'en quittant une partie enivrante, la sensation d'un retour au réel et presque d'un retour chez soi, après un voyage. On a vu et vécu de belles choses, mais rien de tout ce qui est arrivé n'avait de conséquences sur notre vie. Alvar se rendit compte que sa relation avec Elina était une relation de jouissance et non une relation d'amour. Si leur entente s'était assombrie, si des inconvénients avaient vu le jour, combien de temps les eussent-ils supportés l'un et l'autre? Leur vie conjugale n'était pas faite pour le meilleur et pour le pire. Elle n'impliquait aucun sacrifice, aucune patience, aucun malheur partagé. Et c'était bien cela qu'il se sentait prêt à affronter avec Sonia, le réel, dans toute son exigeante dureté, dans toute son impitoyable laideur. La véritable beauté se trouvait dans ce lien de chair, maintenu à travers la douleur du monde. Dans ses yeux nageaient les sirènes, et nos baisers mordus sanglants faisaient pleurer nos fées marraines. Elina apparut, toujours identique à celle qu'il avait rencontrée la première fois, dans ce canyon sublime où le hasard les avait réunis. « Elina, nous devons parler, » dit-il posément. Elle sourit. « Où veux-tu que nous parlions ?»« N'importe où, ici, au jardin. » Elle le suivit sur un banc qu'ils aimaient tous deux. En face d'eux, un cours d'eau paresseux coulait, et l'on devinait le dos argenté de carpes et de poissons rouges qui sautaient parfois hors de l'eau dans de petites éclaboussures sonores. Le soleil tombait, comme dans un tableau de Renoir, par taches capricieuses, sur le sol couvert de mousse, de fougères et de violettes. « Je ne suis plus aussi disponible qu'auparavant. Je t'ai parlé de cette fille que j'ai rencontrée dans la vie réelle, Sonia. Celle qui a couché avec Abel. » Alvar ressentit une petite piqûre désagréable à cette évocation, mais continua. « En effet. Mais cela, ni aucune autre chose, n'empêche que je suis aujourd'hui absolument amoureux d'elle. » Elina, quelle qu'elle fût, était peut-être en train de pleurer dans la vie réelle. Son visage féminin ou masculin, jeune ou vieux, noir ou blanc, son visage qu'il ne connaîtrait jamais, portait peut-être les marques d'une souffrance sincère. Mais le visage de son ange restait lisse. « Quand tu penses à elle, à quel vers penses-tu ? » Alvar sourit, et ses lèvres articulèrent en vrac des fragments d'Éluard, de Ségers, de Cédar Singor. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Comme le monde dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leurs regards. Dans les vents et le vin, dans les flammes du feu, dans les lointains ouverts venus du fond des yeux, dans la fuite du sang sur les cadrans solaires, dans la magique étude et dans le fond des vers, toi, tes lèvres, mon sel, mon soleil, mon air frais et ma neige. Elina souriait toujours, figée. « Je vois, » dit-elle. « Je suis désolée, Elina. Notre histoire m'a apporté beaucoup. Elle m'a sauvée même, à certains moments. Je ne voudrais pas te congédier comme ça, mais je ne suis pas capable de continuer les deux en même temps. »« Je vois, » répéta-t-elle encore. « Que faut-il que nous fassions ?»« Je ne sais pas. Pouvons-nous continuer à partager la même maison ?» Elina regarda tout autour d'elle. « Je suppose que je pourrais la recopier entièrement, C'est un peu long, mais pas si difficile à faire. Et je l'implanterai ailleurs. Je suis désolée, Elina. Je n'avais pas pensé à tous ces détails. Si tu veux, je te la laisse et je reconstruirai autre chose autre part. Non, c'est idiot. C'est l'avantage des divorces virtuels. On n'a qu'à dupliquer les maisons, les objets et les animaux de compagnie. Il n'y a rien à partager. Nous resterons en contact ? Demanda-t-il. Je me suis sincèrement intéressée à ta vie, Alvar, à tes enquêtes, à ta famille. J'ai partagé tes inquiétudes, tes sentiments d'injustice. Je sais. Peut-être aurais-je dû te parler davantage de moi. Peut-être. Il me manquera quelque chose dans ma vie réelle. Quelque chose va me sembler vide et vain. Il aurait aimé pouvoir lui dire, moi aussi, mais il ne le fit pas. Tu devrais peut-être quitter ton mari, Elina. Peut-être. Elle s'approcha de lui et lui tendit les bras, et il lui accorda une étreinte douce, respectueuse et triste. Au revoir, Elina. Au revoir. Comment cela pouvait-il être aussi simple? Dire les mots de la rupture, sans voir la douleur de l'autre, sans déchirement matériel, sans lutte pour l'espace, sans corps. Dire les mots de la rupture et la consommer ainsi, facilement, comme on consommait tout le reste dans le paradicte, avec cette déconcertante et merveilleuse légèreté. Il quitta le cottage et resta un moment entre les mondes. Il n'avait pas envie de se déconnecter et décida de se rendre dans un espace social. Il choisit un bar virtuel qu'il connaissait, où on écoutait de la musique à toute heure et où les habitués venaient souvent discuter des dernières actualités. On passait entre les tables, on écoutait les discussions en cours et l'on s'asseyait où l'on voulait pour participer au débat ou simplement y assister. S'il n'y avait pas assez de place assise, l'espace s'agrandissait de lui-même, et Alvar avait toujours apprécié le caractère un peu vieillot de la décoration, qui pouvait faire penser à un café du sud de la France. On pouvait jouer à quelques tables aussi, uniquement aux échecs, aux dames et à la belote. Il déambula pendant un moment et entendit les conversations des diverses tablées. Il était beaucoup question d'Élysée et du nouveau gouvernement. On commentait les nominations des ministres, et l'on se posait des questions sur le rôle mineur de porte-parole du gouvernement attribué à Terence Oxford. Parmi les faits divers, c'était sans conteste le bourreau Blême qui tenait le haut du pavé. Dans la City, on supposait que les meurtres eugénistes, souvent assortis de tortures, étaient perpétrés par un délicat détraqué. La prolifération des cafards, remarquée dans plusieurs villes du monde, donnait lieu également à nombre de conjectures. À New York, la lutte contre les insectes était devenue depuis 20 ans l'une des priorités locales. Alvar n'avait envie d'écouter aucun débat, et encore moins d'y participer. Il passa devant une table très animée qui échangeait des mesures à prendre pour les cyclones, et devant une autre où des complotistes accumulaient leurs arguments face à des agnostics silencieux. Le réchauffement climatique était fini depuis longtemps, et on entretenait cette peur chez les citoyens dans l'unique but de les rendre dociles. Le vrai but depuis toujours était de donner le pouvoir aux intelligences artificielles. Alvar soupira et se déconnecta. Il était l'heure de partir au travail et il se prépara sans hâte. Ce matin, il devait rendre visite aux techniciens de la WA chargés de la géolocalisation. Et cette tâche se révéla encore plus ardue et décevante que prévue. Tout d'abord, il eut un mal fou à se faire accréditer. Un simple inspecteur de la police globale n'était pas le bienvenu pour poser des questions à des fonctionnaires. Sa demande était même regardée par certains secrétaires comme une forme embryonnaire de trahison de la maison. Il s'agit simplement de recueillir des témoignages dans le cadre d'une enquête où ces techniciens que je souhaite rencontrer ne sont pas du tout des suspects, insistait Alvar. Puis, devant l'obstination de ses interlocuteurs. « Je m'appelle Alvar Costa, finissait-il par ajouter. Je suis le frère d'Elsé Costa. » Il dut utiliser l'argument une demi-douzaine de fois, avant d'être introduit dans une vaste salle du sous-sol C, 9e étage. La seconde déconvenue l'attendait là. Il n'y avait pas un petit nombre de techniciens chargés de ces triangulations, mais une bonne 60aine. Il réussit à en interroger 27 dans la journée, dont une dizaine au moins mirent une mauvaise volonté patente à répondre à ses questions. Il apprit que la triangulation était une pratique courante, demandée régulièrement par différentes factions de la WA. L'Intelligence, la police globale et la défense globale, bien sûr, mais pas seulement. L'exécutif ne se privait pas de recourir à ces méthodes. Et il arrivait même que les services techniques soient loués à des acteurs privés, ce qui renflouait les caisses toujours à sec de la WA. Les techniciens n'étaient jamais mis au courant de la raison pour laquelle on recherchait la localisation physique d'une personne. Ils se cantonnaient à chercher et à trouver l'information demandée. La triangulation à partir du paradicte était tellement aléatoire et difficile qu'il ne la pratiquait qu'exceptionnellement. Seuls 4 techniciens en étaient capables, et ceux-là déclarèrent ne pas avoir été sollicités pour un travail de ce genre depuis plusieurs mois. Les difficultés étaient multiples. Il fallait tout d'abord que la personne soit connectée au paradicte pendant un temps qui avoisinait les 6 heures, ce qui était rarissime. Ensuite, il fallait déjouer le système de sécurité interne du paradicte, qui jouissait d'une réactivité sans pareille et d'une intelligence collective bien plus acérée que la WA. De nombreux hackers, de nombreux développeurs anarcho-technophiles, de nombreux programmeurs entièrement dédiés à l'open source faisaient de ce système une forteresse informatique. Le paradicte était un espace numérique de liberté, ouvert à tous, où chacun pouvait librement échanger paroles et informations. Cette liberté d'expression était protégée comme un bien sacré, malgré toutes les dérives terroristes, et notamment contre la WA. En somme, même si je sais quel ange utilise mon assassin, résuma Alvar, il serait impossible de mettre la main dessus. Vous avez bien compris. En revanche, lui dit un technicien un peu plus disert que les autres, si votre homme est au téléphone en direct avec une personne dont vous connaissez le numéro, que ce soit à travers le paradicte ou pas, il est possible de faire la triangulation. Cela prend environ 30 secondes, mais il faut être sûr de son coup. Je sais qu'il y a un service de nuit pour assurer ce genre d'urgence. En tant qu'inspecteur de la police globale, je peux recourir à ce service? Eh bien, je suppose, il faudrait vous adresser au chef de bureau. Alvar, en sortant, récapitula les informations qui lui étaient utiles. Tout d'abord, s'il réussissait à remettre la main sur Marek Escanza dans le paradicte et qu'il parvenait à lui tendre un piège, il serait possible de le localiser. Ensuite, Marek avait sans doute bien été localisé grâce à un coup de téléphone, et l'ange aux yeux d'or, Mantra, était décidément une bonne candidate pour ce rôle de second couteau. Enfin, l'un des techniciens avait accepté de lui fournir la liste de toutes les triangulations demandées dans les jours précédant la mort de Marek. Il était en effet parfaitement possible, et même probable, que le commanditaire ait attendu assez longtemps avant de se rendre à la caravane pour guetter un tueur potentiel. Il était même possible, à la réflexion, qu'il ait planqué plusieurs soirs de suite, jusqu'à tomber sur le profil idéal. Les autres soirs, aucun individu solitaire et patibulaire comme Bassel Kazra n'avait peut-être quitté la caravane. Le commanditaire n'était sûrement pas très pressé. Alvar élargit donc la recherche à une semaine avant la date, ce qui faisait la bagatelle de 529 triangulations à éplucher. Fatigué par sa journée, Alvar appela Abel pour voir s'il était dans les parages et disposé à prendre un verre. Abel était justement en train de sortir et ils se retrouvèrent dans le hall d'entrée, en haut des ascenseurs, au niveau de la rue. « Je n'ai pas le temps de boire un verre, mais on peut marcher ensemble jusqu'à l'interurbain, » proposa Abel. « J'ai rendez-vous avec un nouvel ami, que j'apprécie beaucoup. »« Comment s'appelle-t-il ? » ? « Cyril, » dit Abel après un temps d'arrêt. « Où l'as-tu rencontré ? » ?»« Dans un bar. On a parlé de tout et de rien. J'aime bien sa vision des choses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un de bien. Et toi, toujours avec Sonia ?»« Oui, » dit simplement Alvar. « Et je ne pense pas que ça s'arrête de si tôt. »« Je suis désolée d'avoir... Laisse tomber. Ça nous a forcé à regarder les choses en face. » Abel sourit, du sourire auquel il était impossible de résister. Il faisait lourd dans la rue, et des cafards couraient le long des trottoirs dans le caniveau. Il y avait aussi des files de fourmis qui, inexplicablement, transportaient des charges volumineuses. « Tu as vu Elsie récemment ? » demanda Abel. « Je ne la voyais déjà pas beaucoup avant, alors maintenant. » « Et toi ? » ?»« Moi, je la vois au travail, 1 ou 2 fois par semaine. Ce n'est jamais très personnel. »« Elle est bonne dans ce qu'elle fait ?» « Elle est redoutable, » dit Abel. « Vous êtes vraiment proche ? Tu approuves son programme politique ?» Alvar ne s'était jamais intéressé à la politique, et Abel savait qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée dans sa question. Il voulait savoir quelle était la proximité professionnelle qui les unissait. « Son programme politique n'est pas vraiment fixé, » fit Abel d'un ton sérieux. « Elle a été élue sur la langue de bois, comme tous les autres. Mais que va-t-elle faire pour de vrai ? Moi-même, je n'en sais rien. » « Mais tu lui fais confiance. » Abel éclata de rire. « Alvar, on est en train de parler d'Elsée. » Alvar rit à son tour. « Et alors ? C'était quand la dernière fois que tu lui as fait confiance ?» Alvar secoua la tête, toujours en riant, mais ne répondit pas. Leur enfance lui revenait en bloc. Elsée l'aînée, la préférée de papa, la donneuse de leçons, qui les avait toujours dénoncés, humiliés, réprimandés, parfois battus, pour jouer une seconde plus tard devant les parents le rôle de la grande fille raisonnable. elles et qui les avaient toujours divisées et flattées pour mieux obtenir leurs maigres trésors et leurs pauvres secrets, elles et qui prêchaient le faux pour savoir le vrai et qui finissaient par tout déballer devant Francis exaspéré. Alvar surtout avait souffert, et il ne comptait pas le nombre de punitions qu'il lui devait à elle. Plus difficile à pardonner, lui revenait aussi la Elsée qui prenait la maladie de leur mère comme levier pour les culpabiliser, avec un succès si franc que les deux frères ne s'étaient jamais départis du sentiment d'avoir contribué à la tuer, si absurde que cela fût. « Je préfère ne pas y penser, » conclut-il. « Au fait, il faudra que je te montre, » dit Abel. « J'ai créé un espace pour papa. »«
Dans le paradicte ? » ?»«
Bien sûr. Je me suis amusée à faire une réplique exacte de son appartement. » Avec les meubles, les fenêtres, tout est à l'échelle. »
Alvar fronça les sourcils, amusé mais surpris.
« Pourquoi faire ?»« Je lui ai créé une Elsée semi-inerte, qui peut jouer du piano, donner les consignes de sécurité du jour, débiter les derniers articles de la revue administrative, jouer aux échecs ou lui montrer des vieilles photos. Mais je vais lui apprendre d'autres fonctions. Elle sera plus vraie que nature. Il pourra se connecter et puis lui raconter tout ce qui lui passe par la tête. Qu'est-ce que tu en penses ?»
Alvar n'en croyait pas ses oreilles.
« Je ne sais pas ce que j'en pense. Je trouve ça tellement bizarre.
Tu trouves ça pire que son aide-soignante qui le traite comme un demeuré ?»«
Non, » dit Alvar sans conviction.
« Elsée est au courant ?»«
Tu es fou !» Ils arrivaient à l'interurbain et leurs chemins se séparèrent. En s'installant dans la rame, Alvar tenta un instant d'imaginer son père, avec un casque de réalité virtuelle, en train de converser avec un simulacre d'Elsée dans un simulacre de son appartement. Et la seule expression qui lui vint fut, malgré lui, « Quel zèbre !» Puis, il s'absorba dans les messages qu'il avait reçus de Sonia. Elle lui écrivait des bouts de chansons, des mots tendres, des énigmes qu'il était le seul à pouvoir comprendre. Il lui répondait sans cesse, maintenant avec elle, tout au long de sa journée, le fil de leur conversation amoureuse. C'était un fil ténu, souple, lâche, parfois presque invisible, et pourtant brillant et incassable, comme les fils d'araignées qui, disait-on, s'ils étaient tendus en haut du ciel, supporteraient sans se briser la collision d'un avion. C'était ainsi qu'il se représentait la sorte d'amour qui les unissait, comme un lien de chair et de soie, résistant à toutes les violences du monde. En attendant une réponse à son dernier message, il ferma un moment les yeux et fit de la place en son esprit pour Éluard. « Tes yeux dans lesquels je voyage ont donné au geste des routes un sens détaché de la terre. »